Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, première sur l'écho.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Toc, 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 c'est le jardinier. Oui, on vient débroussailler le futur, à éclaircir un peu l'avenir. Les marchés sont l'avant-poste des tendances à venir. Ils débroussaillent chaque jour le futur et on accompagne le mouvement avec nos experts jusqu'à 18h. Antoine Larigauderie, notre défricheur quotidien. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
On va parler de torpeur, de douce torpeur des marchés. Un CAC 40 qui fait pas grand-chose, moins 0,35%, 8438 points. Mais alors, séance un petit peu particulière. Puisque c'est chez nous, séance à quatre sorcières, quatre types de contrats et d'options sur indices qui tombent à échéance, donc peut-être quelques ajustements techniques à prévoir en fin de séance, alors que Wall Street a connu sa séance de quatre sorcières hier, c'est jour férié aujourd'hui, donc il n'y a pas les investisseurs américains. Donc voilà, un petit peu d'ambivalence et de technicité sur ce marché. On va voir ce que ça donne du côté du fixing tout à l'heure.
Et ce qui est en jeu, c'est une cinquième semaine de hausse d'affilée sur les marchés européens. On est bien parti pour cette cinquième semaine de hausse d'affilée pour le CAC 40. On va y revenir. On tirera les leçons de la semaine sur la tech, mais pas que, sur les devises aussi, puisque la semaine aura été marquée par un net rebond du dollar quand même. On était à 1 euro qui valait 1,16 $, un peu plus, en début de semaine. Là, on est à 1,1471. Et ce mouvement de remontée du dollar, il dure depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que c'est le retour d'un pari sur l'exceptionnalisme américain? Est-ce le retour de l'exceptionnalisme américain qui se traduit dans cette hausse du dollar ou simplement un mouvement opportuniste ou les conséquences des nouveaux scénarios autour de la Fed? On va aborder ces enjeux bien sûr avec nos experts et les conséquences pour vos portefeuilles, parce que si vous êtes investi à Wall Street, cette remontée du dollar, c'est une sacrément bonne nouvelle. Sacrée bonne nouvelle, c'est mieux dit comme ça. BFM Bourse donc sur toutes les batailles de marché. Et BFM Business, au cœur de toute l'actualité, on suit notamment les questions budgétaires. En quête d'économie, le gouvernement réfléchit à étendre les déremboursements de la Sécu. En clair, transférer vers les mutuelles davantage de charges, par exemple les transports sanitaires ou certains médicaments. Ou encore alourdir les taxes sur les complémentaires. Bref, les représentants des mutuelles, eux, ont été reçus dès hier pour tester le terrain. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer était déjà au plus bas dans les sondages. Et bien maintenant, il est carrément au pied du mur. Son principal rival au Labour vient de remporter une législative partielle près de Manchester. Et le retour au Parlement d'Andy Burnham est, selon les observateurs, de nature à précipiter la chute du Premier ministre britannique. Un coup d'œil aux obligations britanniques aujourd'hui. Pas de mouvement particulier. Oui, on a une tension, mais une tension à peu près générale à l'ensemble de l'Europe. Et puis, du côté des sociétés, Maison du Monde ne s'en sort plus. La chaîne d'ameublement et de décoration accuse une perte de 406 millions d'euros en 2025. Et donc, Maison du Monde annonce avoir signé un protocole d'accord pour se refinancer, un protocole d'accord avec deux fonds britanniques. En échange d'argent frais, ces deux fonds britanniques prendraient le contrôle de Maison du Monde, qui est, vous savez, un groupe coté sur Euronext. Le titre est suspendu de cotation cet après-midi. Plus d'analyse sur tous ces enjeux tout à l'heure dans les Experts sans frontières. Ce sera avec Mathieu Jolivet d'ici moins d'une heure, d'ici précisément 53 minutes et 33 secondes. D'ici là, c'est BFM Bourse. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ils viennent de nous rejoindre ce soir. Cyril Collet, directeur de la gestion quantitative action, CPRAM. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Florian Roger aussi est avec nous, responsable des investissements de BNP Paribas. Bonsoir Florian.
Bonsoir Guillaume.
On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre dans ces marchés. Antoine le disait, il y a une forme de torpeur aujourd'hui. D'abord, Wall Street est fermé, c'est un jour férié aux États-Unis, voilà. Et en Europe, on fait pas grand-chose. Hein. L'Eurostock 50 est quasi stable, le CAC perd 0,2%. Il y a une forme de torpeur. Il y a une chaleur assez accablante un peu partout là. Et quand il fait très chaud, il y a ceux qui sont dans la torpeur, un peu écrasés, fondant sur eux-mêmes. Il y a ceux qui sont tout excités, là, que la chaleur excite. Et là, on n'a pas notre excitant quotidien. Là. Wall Street est fermée, donc on est dans la torpeur. Cette baisse du jour, moins 0,3, elle ne va pas empêcher une hausse cette semaine. Sur le mois de juin, tout se passe très bien, malgré la petite baisse du jour. Le CAC, sur les cinq dernières semaines, est en progression. Là, on est en train de signer, malgré la baisse du jour, une cinquième semaine d'hausse d'affilée quand même. Donc, on peut voir les choses positivement. Comment vous regardez ce mouvement de rebond des marchés, Florian?
Là, sur la torpeur, on est dans une digestion, en fait, après quand même un news flow qui était très important avec SpaceX, tout le monde en a parlé mille fois. On avait la première réunion, en fait, du nouveau président de la Fed. Donc, c'est pareil, on a vu tous les effets, vous en parliez tout à l'heure, on en parlera dans l'émission, sur le dollar. Donc là, on est plutôt, en fait, sur une période de digestion. On a eu, bien évidemment, la signature de l'accord en Iran. Voilà, on a tous ces facteurs qui étaient un peu, comme on dit en anglais, pending, qui sont tombés et en fait on les digère aujourd'hui. Après, sur le rebond de marché, ce qu'on voit, c'est fort rebond des actions européennes, positionnement là, les secteurs qui rebondissent, c'est beaucoup les secteurs de consommation, les banques. Donc en fait, c'est en gros, c'est la désescalade, c'est la thématique de la désescalade qui permet quand même ce rebond en fait des marchés très récemment.
Oui, et vous pensez que ça pourrait aller beaucoup plus loin? Enfin, quand vous voyez l'ampleur des choses, c'est une question qu'on se pose un peu naturellement. C'est pendant la guerre, l'Europe a souffert, sous-performé par rapport à Wall Street, et depuis qu'on voit que la guerre va prendre fin, si ça se confirme d'ailleurs, l'Europe fait toujours pas mieux que Wall Street. C'est-à-dire que pile Wall Street gagne, face l'Europe perd. Qu'il y ait la guerre ou pas, Wall Street fait mieux que l'Europe. Est-ce que ça, vous pensez que c'est amené à s'inscrire et à durer?
Depuis un mois, c'est moins le cas quand même. On a plutôt une surperformance des actions européennes par rapport aux actions américaines depuis un petit mois.
Donc de pas grand chose. Cyril confirme, mais de pas grand chose. Hein, ça joue un cheveu.
On l'a quand même.
Mais je confirme quand même.
Donc on a
les confirme, mais il me faisait un signe en disant oh, attention, c'est que d'un cheveu. Hein,
ouais, mais ouais. C'est quand même le cas. Là, on a effectivement ce petit rebond supplémentaire en fait de l'Europe. Après, fondamentalement, nous, ce qu'on avait en tête, on se disait si le détroit d'Hormuz reste fermé en fait fin juin, on va avoir davantage de destruction de demande. En se disant, on aura des problèmes d'approvisionnement en fait sur le pétrole. Donc il avait vraiment nécessité d'avoir un accord. Maintenant, les stocks sont très bas et on va avoir quand même moins en fait de puits disponibles sur les pays non OPEP à partir de 2027. Donc nos analystes chez BNP Paribas nous disent le prix d'équilibre c'est $80 le baril. Et donc ça veut dire qu'en fait on n'aura pas beaucoup de baisses supplémentaires. Donc sur la partie consommation, faut pas espérer un rebond en fait qui soit véritablement durable. Donc il y avait un problème de positionnement là parce que tout le monde avait peur effectivement qu'on passe la fin juin avec le détroit d'Hormuz fermé. On a une sorte de soulagement, mais d'après nous, en termes sectoriels, ce qui va continuer à surperformer, c'est toute la partie investissement. Et là-dessus, les États-Unis sont quand même pas trop mal positionnés.
Ah, ouais. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Parce que sur la baisse des cours du pétrole, on n'ira pas beaucoup plus bas que les cours actuels, $80. Une des explications à cet argumentaire, ce scénario de marché que vous nous livrez. Est-ce que vous le partagez, Cyril?
Oui, alors on revient quand même un peu dans le scénario de début d'année. Il ne faut pas oublier que de début janvier à fin février, l'Europe a largement surperformé les États-Unis, qu'on avait un call émergent qui marchait bien. Et effectivement, pendant la crise, on a repris malheureusement la trajectoire des 10 dernières années, c'est-à-dire les Américains qui surperformaient tout. Là, on a quand même l'impression, avec effectivement, toujours pas la fin, mais des espoirs de fin du conflit en Iran, qu'on pourrait revenir dans un constat de début d'année avec des croissances de bénéfices qui sont en Europe supérieures à celles des États-Unis et aux émergents qui sont supérieures à celles de l'Europe, qui sont toujours supérieures à celles des États-Unis. La vraie différence, je dirais, entre maintenant et le début d'année, sur l'aspect diversification, c'est que là, il y a un appel au peuple qui s'est fait un peu avec Tesla, mais qui va encore se faire avec d'autres. C'est-à-dire que
SpaceX.
Oui, financement. Oui. Tesla, pardon, c'est le même.
Oh, SpaceX, c'est presque pareil.
Oui, merci, oui. Merci. Donc ça, effectivement, cet aspect-là, il n'est pas complètement neutre, parce que beaucoup de gens sont en train de se positionner ou pas. La façon dont ça a été diffusé auprès des investisseurs est quelque chose dont la gouvernance pourrait s'occuper, mais quand on parle d'Elon Musk, on ne peut pas parler de gouvernance, parce que ça ne marche pas. Une fois qu'on a dit ça, il va y avoir beaucoup d'appels en achat d'actions, au sens où les entreprises américaines depuis 10 ans rachètent énormément leurs actions, or que là on a une bascule. Google va émettre pour 80 milliards en arrêtant d'émettre de la dette. Donc on a un monde où les actionnaires vont être de plus en plus sollicités. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, dans les 3 prochains mois, ça va être principalement sur le marché américain. Donc oui, ça va être difficile de voir au niveau des flux la continuité du mouvement qu'on avait en début d'année, même si je pense qu'effectivement, en termes de bottom-up, pour parler français, en termes de croissance des bénéfices au niveau des entreprises, l'intérêt, il est européen, voire émergent.
Oui, mais alors, vous le dites, il va y avoir beaucoup moins de... Enfin, depuis une vingtaine d'années, le nombre d'actions avait tendance plutôt à se raréfier, notamment aux États-Unis, beaucoup de rachats d'actions, ce qui faisait monter la cote. Quand il y en a moins, les actions, chacune se valorise davantage, ça faisait monter la cote. Là, on va vers autre chose, justement. Il y a de plus en plus, au contraire, d'émissions de nouvelles actions. Vous dites, ça va attirer les flux, continuer de les attirer vers les États-Unis plutôt que vers l'Europe. Mais est-ce que pour autant, Wall Street montera, puisqu'il y en aura plus des actions, donc leur valeur sera diluée?
Dans un premier temps, ça va de toute façon attirer plus de flux vers les États-Unis, donc ça pourrait soutenir à minima la bourse américaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notamment sur le secteur technologique, les rachats d'actions, c'était à peu près la moitié de la croissance ou près, dans certains cas, les trois quarts de la croissance affichée, la croissance par action, pas la croissance nominale, parce que la croissance en dollars, elle ne changeait pas. Et donc ça, c'est quand même un gros coup de frein sur potentiellement les hausses la hausse de l'ensemble des valeurs technologiques aux américaines. Ça, c'est sûr.
Oui. Bon.
Donc mais l'Europe, par rapport aux crises, ça risque d'être compliqué quand même dans les quelques mois qui viennent du fait de ces appels à capitaux.
Il y a des rachats partout maintenant aussi. Il faut quand même entendre qu'il y a des rachats d'actions au Japon. Depuis 3 ans, ça s'est énormément développé. Il y en a aussi dans ce côté des valeurs européennes. Mais ce qui est clair, c'est qu'a priori, sur les prochaines années, il y en aura beaucoup moins aux États-Unis.
Est-ce que la tech, est-ce que ce dont on est en train de parler, les investissements, les émissions de nouvelles actions, etc., est-ce que la tech est plus importante que la Fed pour les marchés maintenant?
Au sens quoi? Risque ou au sens opportunité?
Non, pour orienter la tendance sur les marchés. Est-ce que la tech, les annonces de la tech, la dynamique de la tech, alors il y a un petit lien, mais pas complètement énorme non plus, est plus importante que les annonces de la Fed ou les conférences de presse de Kevin Warsh?
Je vais laisser les spécialistes parler de la Fed, hein. Je vais dire des bêtises sinon. Non, mais sur les actions et les actions de la tech principalement, le vrai changement, c'est qu'avant, ils s'endettaient. Fortement, où ils émettaient des obligations privées. Aujourd'hui, ils émettent des actions. Je pense que ça, c'est quand même assez nouveau pour eux. Ça veut dire que, est-ce que c'est plus... Qu'est-ce que ça va changer? Ça peut changer, bien entendu, la valorisation. Ça peut changer la vision qu'ils ont au niveau de leur bilan, mais c'est quand même des entreprises qui, contrairement à ce que c'était le cas d'il y a 20 ans, pardon, sont très, très rentables. Donc, c'est plus une façon de répartir entre guillemets, le gâteau. Je vois pas un impact vraiment fort sur un comportement boursier uniquement relatif.
Je me rends compte, moi, même dans nos émissions ou dans les sujets que nous proposent nos intervenants, beaucoup nous proposent des sujets, et moi-même, réciproquement, tech, puis Fed, même si cette semaine, c'était la première réunion de l'ère de Kevin Warsh, bien sûr, on en a parlé, on va en parler ensemble dans un instant, mais j'ai l'impression que le plus important reste la tech désormais, plus que la Fed. Florian.
Je pense aussi, en fait, là, il y a des attentes de marché qui sont quand même vraiment très importantes sur les résultats. Et on est vraiment dans une approche séquentielle maintenant. On l'a vu, la petite différence entre le début d'année et aujourd'hui, bon, il y a eu le conflit, mais il y a eu aussi toute la saison de résultats du premier trimestre où sur les annonces en fait d'investissement, on est largement au-delà des attentes, ce qui fait une contribution à la croissance plus forte, ce qui a fait des effets richesse et en fait ce qui drive globalement la croissance américaine. Donc le point, on arrive à un moment où on se dit...
Et tout ça a sa propre dynamique.
C'est ça, exactement. Il y a un côté un peu auto-réalisateur ou auto-régressif, c'est-à-dire d'un trimestre sur l'autre. Donc là, tout le monde est en train de se dire, est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'il y a des signaux un peu d'alerte qui arrivent? Donc à chaque saison de résultats, on va regarder. On voit qu'on investit de plus en plus, mais sur les mémoires, par exemple, on voit que ça coûte de plus en plus cher. Donc, c'est quoi le retour sur investissement? On voit qu'on a un risque de concurrence chinoise. On voit qu'on a des questions sur les prix des tokens. Donc, on arrive à un moment, en termes de volatilité macroéconomique, je pense que la tech et les saisons de résultats, effectivement, deviennent plus importantes que la Fed.
Oui, et tout, quand je disais tout ça s'auto-entretient à sa propre dynamique, Cyril, vous aviez hier là-dessus de pas complètement partager l'idée quand même, la Fed peut avoir un impact sur tout ça. Oui, évidemment, si elle relève ses taux de 300 points de base, on est d'accord, mais un petit 25, ça changera pas grand-chose à cette dynamique-là.
Le nouveau, il a dit que là, il trouvait que l'inflation était un peu haute, que c'était pas normal que depuis 5 ans, on n'était pas à l'objectif et que potentiellement, il pouvait monter un peu les taux. S'il monte les taux de
50... Ça changera quoi? Et ça réglera quoi l'inflation de relever les taux de 25
points de base? Les taux de 50 BP, la prochaine fois qu'il prend la parole, je pense que quand on va se revoir, les marchés sont pas au même niveau.
Bon, ils auront fait moins 1, puis le lendemain, ils auront digéré, quoi. Voilà.
Non, je ne suis pas sûr. Je pense pas. Enfin, s'il arrive à faire croire aux investisseurs, parce qu'encore une fois, on est plus dans un côté croyance que dans un côté, au départ, réalisation, qu'il est capable de monter les taux fortement ou qu'il s'accrochera à cet objectif d'inflation, on est quand même dans une transition assez forte, parce que ce n'était pas le cas les 5 dernières années. Les 5 dernières années, au pire, la Fed intervenait. Donc, pour les marchés actions, c'est quand même une aubaine. Ouais. En avril 2025, marché perd 10. Non, mais vous inquiétez pas, tout va finalement bien se passer. Ça reprend 10 en moins de 3 semaines. Là, cette année, il a fallu 4 semaines pour combler les 10. Mais on est quand même... Enfin, ce qui accompagne l'investisseur action depuis la sortie du Covid, c'est ne t'inquiète pas, quand ça baisse, t'achètes. Parce que soit les États vont intervenir, soit la Fed va intervenir. Si ce narratif-là s'arrête, ou prend une forme un peu différente ou un peu plus dure, peut-être que les actions vont moins monter.
Parce qu'en fait, avec Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, le risque, c'est qu'on perde le fameux put de la Fed. C'est-à-dire, t'inquiète pas, à la fin, s'il y a un vrai souci, ou papa ou maman viendra te chercher et te soignera, t'es beau. La Fed sera toujours là, la BCE sera toujours là. Là, cette idée-là pourrait finalement finir par s'évaporer avec Kevin Warsh, qui a prévenu quand même dans sa conférence de presse avant-hier qu'il ne faudrait pas toujours compter sur la Fed, que la Fed elle-même n'essaiera pas d'aider les marchés à anticiper l'avenir. Bien au contraire, d'ailleurs, il a assumé, bien au contraire. Il y aura moins de communication de la Fed pour redonner à cette fameuse Fed les instruments de liberté. Face au marché, libérer presque la Fed des marchés. C'est ce qu'on a compris de sa conférence de presse.
Je pense qu'il y a vraiment deux choses. À mon avis, la tech est quand même plus importante pour les marchés actions. La Fed est plus importante pour les marchés de change, en fait. Ouais. Ça, c'est sur le premier point.
On peut les décorréler.
Exactement. Sur le deuxième, nous, ce qu'on indique beaucoup aux clients, c'est qu'en fait, en Europe, la BCE a parlé beaucoup d'inflation et qu'en fait, on a un problème de croissance. Et pendant sa campagne, Kevin Warsh a parlé beaucoup de croissance, mais en fait, il y a un problème d'inflation. Et il a fait campagne sur l'idée de baisse de taux et de problématique de croissance. Puis on a eu le dernier Job Report qui montrait qu'en fait, c'était plutôt une problématique en fait d'inflation. Et là, première conférence de presse, il a besoin de se crédibiliser. Donc il avait besoin de revenir sur cette idée de stabilité en fait des prix. Donc on a eu des éléments, c'est un, réaffirmer l'objectif de stabilité des prix, et deux, la référence à Milton Friedman, qui est une référence en disant, en gros, c'est la monnaie qui fait l'inflation. Et donc là-dessus, on va être assez orthodoxe sur la manière de gérer les choses. Après, il y a deux mesures non conventionnelles. Il y a un, ajuster le bilan, et deux, revenir sur ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire l'engagement de la Banque centrale de... pas bouger sa politique monétaire pendant une période donnée.
Ouais. Il peut aller jusqu'à abandonner la forward guidance, c'est son projet.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, il a plus sur les mesures non conventionnelles. D'emblée, il a retiré la forward guidance et ajusté le bilan. C'est remis à plus tard en fonction de ce que dira le groupe de travail en fait sur le bilan. Donc finalement, c'est sur la partie courte qu'on a eu un engagement. D'où cette pression en fait sur les taux courts plus que sur les taux longs, et d'où cette appréciation du dollar. Donc en fait, aujourd'hui, l'impact sur le marché des changes, il vient plus de la Fed, et sur le marché actions, pour moi, très clairement, c'est la tech qui va l'emporter, parce que les pressions vont être très fortes sur les prochaines saisons de résultats.
On va continuer d'en parler, mais vous estimez qu'il a réussi sa première conférence de presse, et que on va dire la Fed, la trajectoire et la révolution de palais quand même qu'il annonce au sein de la Fed est plutôt finalement rassurante ou pas?
Elle est plutôt réussie, la première conférence de presse, parce qu'on n'a pas eu une forte volatilité, on a eu une petite prise de profit, mais on n'a pas eu une forte volatilité en fait des marchés. Voilà, vis-à-vis du board, il est obligé de crédibiliser la position. Je veux dire, on voit tous les chiffres inflationnistes aux États-Unis, on a des bons chiffres de l'emploi, on va vers un taux de chômage autour de 4. Bon, voilà, on n'est pas dans un positionnement pour baisser les taux. Donc, il y avait simplement une sorte de besoin de rationalité, donc ça, c'est fait. Après, moi, je trouve qu'il y a encore... quelque chose qui est incompatible, c'est réduire le bilan, comme il en parlait avant, continuer à promouvoir l'investissement, ce qui est quand même le cas dans le cycle des affaires. C'est-à-dire, on a eu un vrai virage des modèles de croissance de la consommation vers l'investissement. Et pour l'investissement, les taux longs sont clés. Et pour les taux longs, le niveau du bilan est très important.
Ah oui.
Et le dernier point, c'est la stabilité financière. Voilà. Si vous prenez ces trois aspects, vous avez un triangle d'incompatibilité. Il y a quand même une question sur la manière dont ça va être géré.
Peut-être qu'aujourd'hui, les bilans sont un tel rouleau compresseur qui dépend moins qu'avant du bilan de la Fed. Quoi. Peut-être qu'il y a un peu moins de corrélation aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des investissements dont aura besoin et promis par la tech. Est-ce que quelque part, ils dépendent vraiment de la Fed pour leurs investissements? Ils ont tellement d'argent. Il y a ça aussi, peut-être. C'est la différence par rapport à avant, Florian?
Oui, on parlait du côté autoréalisateur. C'est-à-dire, on a des effets de richesse tant que tout va bien. Et par contre, le jour où on a quelques déceptions, c'est ce qu'on appelle en théorie économique les effets d'accélérateur financier. Là, d'un seul coup, ça peut s'arrêter. On peut avoir l'investissement qui s'arrête, les marchés du travail en fait qui se retournent et des pressions qui sont beaucoup plus déflationnistes. Et dans ces cas-là, il faut des mesures quantitatives.
J'ai l'impression que c'est un monde plus prometteur dans lequel on est avec la tech, etc. Et aussi plus dangereux, quoi. C'est les deux à la fois. Cyril ?
Ouais, non, je suis d'accord sur le plus dangereux. Moi, j'avoue, je suis toujours pas devenu un spécialiste, mais je trouve que le fait de dire je vais vous parler moins, puis venez pas m'embêter parce que j'ai des trucs importants à faire. J'aimerais d'abord un peu je suis sous ton contrôle, un peu me réorganiser, puis après on se revoit. Je trouve que c'est assez choquant, dans le sens où ce qu'a bien réussi la Fed depuis 10-15 ans, c'est quand même de parler plus, d'être plus proche des marchés. Alors peut-être d'avoir été par moments un peu trop accommodant, un peu trop easing pour parler français, mais je trouve que ce changement-là, il est vraiment important, et pour moi, c'est ça qui peut présager un peu plus de, on va dire, volatilité. Maintenant, pour revenir sur la tech, entre l'importance entre l'un et l'autre, plus la tech va être prégnante auprès des investisseurs papier, actions, comme auprès des investisseurs crédit, plus ça va être un risque de volatilité. Je suis complètement d'accord. C'est en Corée aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent de bosser et qui achètent des ETF avec du levier sur ou Skynix ou Samsung. C'est comme chez nous, il y a quelques années, en 2000, quand votre voisin il était au supermarché, il arrêtait, il mettait ses économies dans la bourse parce que ça sert à rien de travailler.
Mais ils auraient tort de s'en priver quand vous voyez les marges qu'ils sont en train de réaliser.
Combien de temps ça dure?
C'est du pouvoir d'achat.
Combien de temps ça dure, ça? On sait que ça dure pas.
Ils vont s'enrichir avec ça, tous ces particuliers.
Mais on sait que ça dure pas, c'est pas possible.
Oui.
Donc aujourd'hui, moi je trouve que plus le poids de la tech est important, quoi qu'il se passe à la Fed, et même si je pense que la Fed sera plus une source de volatilité dans les prochaines années qu'elle l'a été dans le passé, la tech va être soit un facteur d'enrichissement fort, certes, mais un facteur de risque de plus en plus important. La concentration des indices, c'est vrai, mais ça ne va faire qu'augmenter. Les trois, on va en parler derrière, mais les trois IPO, toujours pour parler français, les trois introductions en bourse qui arrivent, dont celle qui vient juste d'être faite, ça ne va faire que concentrer le risque sur le même secteur, oui, le même métier.
Je comprends, mais on va en parler en détail, bien sûr, mais regardez par exemple les cartes mémoire, on n'arrête pas de dire, vous citiez SKNX, ceux qui prennent du levier, qui s'arrêtent de bosser, qui investissent dans SKNX et qui espèrent ainsi s'enrichir à vie grâce à SKNX. Tout à l'heure, David Rainville de Sycomore AM nous disait, spécialiste de la tech, hein, il nous disait, je vois la demande croître sur les cartes mémoire, on est là-dedans avec SKNX, croître, pourquoi pas jusqu'en 2027, 28, 29 ou 30, avec chaque année une hausse de la demande par rapport à l'année précédente de 20-25%. Voilà, c'est ce qu'il nous disait, ouais, je le vois venir. Et il nous disait, tous ces acteurs des cartes mémoire vont s'enrichir à un point jamais vu, vont générer énormément de cash, et si ces acteurs des cartes mémoire, aujourd'hui considérés comme très chers, hein, retournaient ne serait-ce que 50% de leur free cash flow, eh bien, ça leur permettrait de racheter plus de 50% de leurs actions. C'est-à-dire qu'on ira ensuite, quand le cycle va se retourner, peut-être vers une stratégie de rachat d'actions massif qui permettra de limiter la baisse de ces valeurs, voire de leur offrir un nouveau relais de croissance par les rachats d'actions que la génération de cash qui arrive va permettre de faire demain. C'est là que la dynamique peut s'auto-entretenir encore un certain temps, quoi.
Oui, mais elle sera quand même très... Oui, c'est vrai, mais elle sera quand même super concentrée. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un risque, un effet de concentration. Alors, je suis toujours pas spécialiste non plus des cartes mémoire, mais peut-être qu'un jour on sortira un nouveau procédé. Peut-être qu'il y a une usine en Chine qui va nous dire, et finalement, on a un truc qui marche super bien, mais bon, on l'a pas sorti avant. Enfin,
qui nécessite moins d'énergie, moins cher, etc.
Oui. Alors, moins d'énergie. Oui, potentiellement. Mais en tout cas, je trouve que le risque industriel, dans le sens industriel égale technologie, je trouve que le risque industriel ne fait quand même que grandir. Même si, oui, ça gagne de l'argent, mais ça nécessite tellement d'investissement, et encore une fois, des banques, des investisseurs de crédit, des investisseurs d'actions, c'est que tout le monde met son argent là-dedans. C'est complètement hallucinant.
Oui. Florian,
Moi, je retiens quand même quelque chose en tant qu'économiste sur les cycles d'innovation, c'est que souvent, en fait, les attentes à deux ans sont trop fortes. Et on arrive souvent quand même à une sorte de crise de milieu de cycle, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y avait en fait du capex dans tous les sens et on se retrouve en surinvestissement. Et aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment ça s'arrête, mais vraisemblablement, quand on regarde les métriques macroéconomiques, on est quand même en surinvestissement. Et en revanche, les transformations à 10 ans sont plus importantes. Donc, c'est pas une remise en cause de l'intelligence artificielle, c'est simplement l'histoire en fait des cycles d'innovation. C'est le premier point. Et le deuxième point, il y aura quand même une question fonctionnelle, c'est-à-dire là, il y a une course sur le développement de l'intelligence artificielle. Après, la question, c'est à quel prix, pourquoi, et toute la rationalisation qui est derrière, en fait.
Cyril.
Juste un dernier petit mot.
Oui.
Dans le risque, j'en ai oublié un, mais du coup, j'y pense par rapport à ce que tu dis sur l'emploi. C'est que je trouve, ce que j'ai dit juste avant, que le risque industriel et d'investissement, il est complètement dingue. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à percevoir, donc question ouverte, parce que j'ai eu la chance d'inviter au Forum Amundi la semaine dernière. Même Mme Yannette Yellen a dit que l'IA allait créer des emplois. Et j'avoue que ça me fascine totalement. Parce que je trouve que d'un point de vue macro, il y a quand même une croyance encore aujourd'hui que derrière l'ensemble de ces investissements, indépendamment de l'enrichissement des porteurs de parts bienheureux, il y a le fait que ça va finalement, ça va soutenir l'économie parce que ça va créer des emplois. Et moi, j'avoue que tout ce que je vois aujourd'hui autour de moi en intelligence artificielle, ça ne crée pas d'emplois. Donc, je ne sais pas à quel point l'impact macro sera positif ou négatif sur l'emploi.
Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que, un, ça va créer des emplois au départ pour mettre en place l'IA, en fait, dans le reste de l'économie, c'est-à-dire des emplois de conseil, d'aide. Ouais. Et historiquement, en fait, quand on a une innovation, quand on crée de la productivité, c'est quand même un facteur d'emploi. Donc moi, ce que je me dis, c'est que généralement...
Ouais, mais celle-là, elle peut remplacer les humains dans plein d'états de la chaîne.
C'est la première évolution technologique qui concerne les cols blancs. Donc effectivement, il y a des questions sur la partie service. Et ce qu'on peut pas occulter, c'est que généralement, il y a quand même une courbe en J. C'est-à-dire que on peut avoir à un moment une crise de surinvestissement sur certains noms. Un choc macro-financier, une correction du marché du travail, et après ça repart derrière. Donc voilà, c'est le profil qu'on pourrait avoir sur les prochaines années pourrait quand même ressembler.
C'est ce que nous enseigne l'histoire en tout cas.
Parce que j'allais dire l'école bleue, on a beaucoup de respect pour l'école bleue. Eux, quand c'est à chaque fois que c'est arrivé, ils étaient moins nombreux 10 ans après. Hein.
Sur les innovations, quand même, ça a été plutôt dans l'histoire, hein, ça a été des facteurs de création d'emplois. On a fait une très bonne étude chez BNP.
Ouais.
Oui.
Je vais recevoir cette belle étude.
C'est beau parce qu'on a deux maisons quand même, voilà, très respectables, mais qui sont pas les mêmes et qui sont en train comme ça de débattre. Et c'est le marché. Dans un instant, on poursuit nos échanges. Mais si on est à 8 minutes de la clôture, on entre dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC perd 0,4%. L'Oréal, Lanterne Rouge. Franchement, c'est une séance presque pour rien aujourd'hui du côté des valeurs. Donc L'Oréal perd 2,5. Lanterne Rouge. On a encore une baisse de Essilor Luxottica. C'est une séquence très compliquée depuis plusieurs mois pour cette valeur. Moins 2,3%. Et puis à la hausse, Renault gagne 3,3%, Total Energy aussi avec un petit rebond du pétrole, plus de 80 dollars à nouveau le baril de Brent qui vient de récupérer 3 dollars là en moins de 24 heures parce que il y a des doutes sur la mise en œuvre concrète quand même des promesses entre Américains et Iraniens. On a eu des attaques israéliennes sur le sud du Liban la nuit dernière qui mettent à mal cet accord. L'application de l'accord est conditionnée aussi à la paix au Liban et pour l'instant cette paix au Liban on la voit pas. Donc il y a des doutes des investisseurs. Effectivement, le baril de pétrole repart à la hausse, 80,20 dollars en ce moment pour le Brent. On en parle avec Cyril Collet et Florian Roger. SpaceX, ça remet du rêve quand même dans les marchés. Non, Cyril, vous rigolez?
Non, ça me fait pas rêver. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Aller dans l'espace? Récupérer l'épargne de, je sais pas, 3 millions de personnes? En donnant les droits de vote à une seule personne? C'est quoi qui vous fait rêver?
C'est que, en fait, j'ai le sentiment, c'est un de nos experts qui nous le disait derrière, qu'en Europe, on code des organigrammes. Aux États-Unis, à travers leurs valeurs incroyables, désormais, on code des héros, quoi. On vient acheter des héros. Alors, je dis pas qu'Elon Musk est un héros dans tous les domaines. On bascule vite du héros à l'anti-héros, on est d'accord. Enfin, là, il y a une incarnation absolument iconique. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est bien acheter une icône plutôt qu'un organigramme. Ici en Europe, on achète des organigrammes.
Non, c'est vrai.
C'est ce qui valorise aussi le marché américain. Il y a une part de rêve. Je dis pas que c'est pas dangereux, encore une fois, c'est dangereux. Mais il y a une part de rêve dans la valorisation. Et ça, c'est une force de Wall Street.
Ah bah là, pour le coup, dans la valo de SpaceX, il y a une part de rêve très importante.
Ouais. C'est un peu space cake pour vous, SpaceX, c'est
non,
ça
non,
c'est...
non, 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 bon. Non. C'est évidemment plus compliqué que ça. Que ce mec soit un génie, c'est indéniable. Après, encore une fois, tout le monde met de l'argent sur la table pour qu'il développe quelque chose. Si on regarde un petit peu les comptes de l'entreprise, il burn du cash. Il brûle de l'argent tous les mois depuis des années. Là, ces derniers temps, ça devenait super ricérac. Donc, il faut une augmentation en actions et pas en obligations parce que je pense qu'il aurait eu moins de souscripteurs. Enfin, Amazon a perdu de l'argent pendant des années, même après son introduction en bourse. Mais il y a un moment donné, j'imagine que ça paraissait quand même plus tangible. Là, si demain l'État américain arrête sa commande à SpaceX, est-ce que SpaceX vit sans commande de l'État américain?
Oui.
Je ne pense pas.
Parce qu'on dit SpaceX dépend d'un homme, mais SpaceX dépend aussi d'un État.
Ouais. Non, mais SpaceX dépend des commandes de l'État américain, fin de l'histoire. Et donc, indépendamment de la gouvernance, encore une fois, demain l'État américain ne leur commande pas le truc. Ça n'arrivera pas, évidemment. Mais je trouve que ça fait beaucoup de... C'est mon côté courant peut-être, mais je trouve que ça fait beaucoup de risques au même endroit, beaucoup de risques sur le... Ça, non, franchement, je suis désolé, ça ne me fait pas rêver.
Ok. Vous ne voyez pas d'opportunité au même endroit? Vous voyez des risques au même endroit? Florian?
Moi, ce que je trouve plus quand même positif, c'est qu'on sort d'un cycle où il y a eu beaucoup d'opérations de rachat d'actions. Et que là, on a quand même beaucoup plus d'investissements dans les pays développés. Donc ça, c'est quand même un facteur favorable potentiellement de croissance et puis de développement des économies. Après, c'est pourquoi en fait? C'est quand même la question qui va venir derrière. Voilà, quand c'est de l'investissement pour aider à la transition énergétique, à la transition climatique, c'est très bien. Sur SpaceX, on a un développement potentiellement spatial, mais il y a beaucoup de narratifs, et il y a quand même une question qui se pose avec l'intelligence artificielle, c'est à la fin, quel est l'objet, en fait, et quelle sera la fonctionnalité finale. Là-dessus, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, et là, en tant qu'économiste, ce qui est un peu gênant sur le marché aujourd'hui, c'est que le narratif est quand même très fort. Et on l'a vu sur le prospectus de l'IPO de SpaceX, on a quand même vraiment un narratif, effectivement, qui est, disons, non conventionnel.
Spatial. On n'a pas compté les mots, mais par rapport à la Fed, le bilan dans le prospectus sur l'introduction en bourse était le plus petit volume dans l'histoire du monde des introductions en bourse. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment aucun chiffre financier. C'était sur 75 pages, je crois qu'il y avait deux pages de financiers. Enfin, c'était.
Oui, mais le chiffre.
Donc c'est du rêve.
Mais le chiffre que tout le monde retient, c'est le marché adressable. D'après SpaceX, son marché adressable, c'est 28 000 milliards de dollars, c'est-à-dire un quart du PIB mondial. Oui. Mais vous l'avez pas retenu celui-là.
Non.
Trop gros pour être vrai. Plus c'est gros, peut-être, plus ça passe. Peut-être. Plus c'est gros, peut-être. Plus ça passe. Peut-être. En tout cas, plus c'est gros, plus on en parle. C'est bon, et il y en a d'autres des IPO qui arrivent, effectivement. Anthropic, OpenAI également. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le marché actions se remet à faire son travail, à savoir plutôt que s'auto-dévorer via les rachats d'actions, de nouvelles actions, au contraire, arrivent et ce marché est en train de s'élargir, Florian. C'est comme ça que vous voyez.
Là, si on regarde les chiffres, hein, sur l'ensemble des IPO, ce que prévoient les stratégistes actions chez nous, c'est 200 à 300 milliards au global. Là, contre 1200 milliards en fait de rachats d'actions.
D'accord.
Donc globalement, le ratio reste, il n'y a pas de problématique en fait de liquidité là-dessus. Les problématiques de liquidité pourront se poser si à un moment il y a un retournement de marché et qu'il y a un stress en fait sur le marché du crédit. Là, ça pourra poser en fait davantage de problématiques sur le marché du crédit. Voilà, en ce moment, bon, on a quand même une situation qui est plutôt favorable sur l'emploi et effectivement globalement sur le marché actions. Même si on disait, il y a certains rebonds comme on a vu en Europe là très récemment qui ont du mal à se poursuivre sur l'idée d'un rebond important de la consommation grâce à la baisse des prix du pétrole, parce que selon nous, elle va quand même être en fait assez limité.
Oui, limiter la baisse du pétrole et donc le rebond de la conso qu'on peut espérer en Europe, il ne sera pas énorme, hein, ce que vous dites.
Non, c'est ouais, ce qu'on se dit.
C'est ce que vous disiez au début, effectivement.
Exactement. Et puis on a
c'est terrible, on fait les trois quarts de nos émissions sur Wall Street en ce moment.
Ouais.
C'est dommage. Quoi. Alors qu'on a des belles valeurs en plus ici en Europe, les STM qui cartonnent, on en parle, bien sûr, Schneider.
Du coup, vos épargnants mettent tout leur argent dans le marché américain au lieu de le mettre dans les startups françaises et les belles valeurs françaises. Mais c'est de votre faute, en fait.
Quand je vous disais que c'était une dynamique autoréalisatrice, que c'était presque plus important que la Fed et les banques centrales, tout ça. Regardez, la BCE, elle a relevé ses taux de 25 points de base. Bon, alors, c'était anticipé et télégraphié, mais ça n'a pas eu d'impact sur les marchés. Elle a eu tort ou pas, la BCE, là? C'est grosse erreur pour vous de la BCE ou pas? Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent non, elle pouvait pas faire autrement parce que l'inflation accélère. Puis d'autres qui disent non, mais attendez, on a moins d'inflation que les Américains. On a moins de croissance. Où est-ce qu'on relève les taux? Et c'est ici en Europe. Et là, c'est une erreur de politique monétaire. Florian.
L'idée, c'était d'ancrer les anticipations. Après, si on regarde ce qui est important économiquement, c'est les conditions monétaires et financières. Et globalement, on a des primes de risque sur le marché du crédit qui sont quand même très comprimées. On a eu un fort rebond du marché actions. Donc, on ne va pas avoir un impact macroéconomique en fait, qui va être majeur de ces hausses de taux. Donc, le point, c'est qu'on a eu une première hausse de taux. On va avoir une deuxième hausse de taux vraisemblablement sur le mois de septembre, parce qu'une seule, c'est quand même assez bizarre d'attaquer un cycle de hausse de taux et d'en faire simplement une. Après, le marché
On dira pareil pour la Fed, alors. Oui, allez-y.
Ouais. Le marché derrière risque d'anticiper, et ça commence à être le cas, un peu de baisse de taux, en fait, dans un deuxième temps. Donc, le point, c'est que, voilà, on n'est pas sur non plus un durcissement agressif de la politique monétaire. Donc, à la fin, l'évolution, elle est finalement plus limitée. Ce qu'on peut dire, le point positif en Europe, quand même, c'est la bonne tenue, finalement, du secteur industriel, quand même. On le voit, dans le cas français. On le voit également, en fait, dans le cas allemand. Donc, nous, on espérait beaucoup chez BNP du plan allemand, parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même un effort très fort et il y avait une capacité de rebond importante de la croissance grâce au plan. Il est très intensif en énergie, donc, c'est pas au niveau de ce qu'on attendait, mais en termes de prévision de croissance, on est quand même en gros à 0,3 par trimestre, encore pour les prochains trimestres en Allemagne. Ça nous met pas trop loin de 1%. C'est pas non plus une catastrophe sur la partie européenne. Oui. Donc le point, c'est que voilà, le marché reste dans une approche qui est très momentum autour de l'investissement. L'investissement est quand même plus fort aux États-Unis, donc il y a plus de potentiel là. Après, il y a aussi plus de risques, c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, et donc il faudra maintenant regarder saison de résultats par saison de résultats, parce que effectivement, on est quand même dans une situation de bulle de capex.
Bon, ben les choses sont dites. Le défaut pour l'Europe aussi, c'est qu'elle dépend un peu plus de la Chine que les États-Unis. Et qu'en Chine, on a des signaux de ralentissement assez nets. Hein. Les ventes au détail cette semaine qui ressortent en baisse pour la première fois depuis 2022. Bon, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. La clôture. On entre d'abord dans la data room. Chaque chiffre que nos experts vont maintenant nous livrer vaut l'infini. C'est pas facile à dire, je la refais. Chaque chiffre que nos experts vont nous livrer vaut maintenant l'infini. Florian et Cyril, êtes-vous prêts à tronçonner l'infini en data, là, dans cette data room?
On est prêts. Oui.
Bon, c'est un morceau d'infini que vous allez nous livrer. Vous avez chacun une minute, l'infini en une minute. Cyril, vous vous y collez en premier. Votre data ce soir, 0,15%.
Comme je suis pas crédible, j'ai encore parlé de SpaceX, hein, bien sûr. Potentiellement, SpaceX va rentrer dans l'indice phare mondial MSCI World à hauteur de 0,15% le 26 juin. Il pourrait rentrer dans l'indice Nasdaq autour du 6 juillet, le Nasdaq vient de modifier juste son mode de calcul pour pouvoir rentrer trois fois plus de flottant que l'existant. Le flottant, c'est la partie des titres dont on peut vraiment acheter sur le marché par rapport aux titres qui sont détenus et bloqués, si vous avez une famille, par exemple, ainsi de suite. Et c'est un gros enjeu parce que ça veut dire que le Nasdaq favorise la montée du poids de SpaceX à flottant non équivalent. Et après, si on regarde que tous les gens qui ont fait du private equity en amont et qui vont gagner beaucoup d'argent cet été puisque ça va être introduit, potentiellement septembre-octobre, 3% du Nasdaq. Mm-hmm. On gère la pénurie.
Ouais.
On va faire courir tout le monde derrière, les gestions indicielles comme les autres. Tout est bien organisé, ça devrait bien se passer. 0,15% pour commencer, 3% du Nasdaq cet automne.
Oui, ça se passera bien. Attention au lock-up, hein, les moments où ceux qui étaient déjà au capital vont pouvoir sortir.
C'est ceux qui vont permettre l'augmentation du flottant à partir de la publication des résultats, plus quelques jours.
Cyril, vous avez délivré une belle data. À vous, Florian, votre chiffre ce soir, 26.
26. C'est le nombre de fois que Kevin Warsh a utilisé le terme, en fait, task force en 42 minutes. Donc, 26 fois, on a eu task force, beaucoup plus que inflation, prix ou même marché dans la conférence de presse. Donc, on voyait bien qu'il y avait un élément de langage. Donc, on disait tout à l'heure, en fait, il a parlé beaucoup de problématiques de croissance, de baisser les taux pendant sa campagne pour devenir président de la Fed. Là, il était obligé de revenir sur la réalité, sur l'inflation. Donc, il a crédibilisé les choses là en disant, on a un ancrage, en fait, de l'inflation, ça reste une priorité. Après, il y a beaucoup de choses qui vont changer derrière. Et selon nous, l'objectif final, ce sera quand même de limiter la volatilité sur la partie longue de la courbe, parce que c'est ce qui est essentiel sur l'investissement. Donc là-dessus, il faut s'attendre à quand même beaucoup de transformations. Donc on a une revue stratégique importante de la Fed à venir.
Merci beaucoup à tous les deux. Florian Roger pour BNP Paribas et Cyril Collet pour CPRAM. Dans un instant, la clôture hebdomadaire. Est-ce que le CAC 40 va signer une cinquième semaine de hausse d'affilée? Réponse dans un instant. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris. BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
On n'est pas super en avance. Antoine avec nous pour cette clôture hebdomadaire. Antoine, rebonsoir.
Rebonsoir.
Comment termine-t-on aujourd'hui?
Déjà sur une hausse hebdomadaire d'un petit peu plus d'1%. Donc pari tenu, hein, on l'avait édicté en début d'émission. Moins 0,55% tout de même pour la séance d'aujourd'hui. 8421 points en l'absence de cotation à Wall Street, mais en la présence de nos quatre sorcières à nous en Europe. Mmh. Et autant dire que ça a boosté les volumes. On est quasiment à 10 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40 au terme de la séance d'aujourd'hui. 9 milliards 9, très exactement. Plus forte hausse, un rebond assez important du secteur auto, et c'est Renault qui se dégage, hein, plus 3,9%, 28,08€. Sanofi, plus 1,74€. Total Energy, plus 1,71€. Les plus fortes baisses des titres plutôt tendance luxe, hein, Hermès, moins 2,35€, 1,721,50€. Et Silor Lussotica, moins 2,28€, 173,55€. L'Oréal, moins 1,91€, 380,10€.
Et les volumes, Antoine, faramineux donc. C'est énormissime, on peut rappeler le chiffre.
Quasiment 10 milliards, on est à 9 milliards 9.
Oh. Alexandre Baradez avec nous pour célébrer ça quand même. C'est pas tous les jours qu'on est quasiment à 10 milliards de volume. Bonsoir Alexandre, depuis IG.
Bonjour.
Techniquement, comment vous sentez les choses? Là, cette clôture, quel signal envoie-t-elle pour la suite, Alexandre?
On a une clôture qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu sur les indices européens, je parle du CAC et du DAX, ces derniers jours. On voit qu'après la réunion de la Fed cette semaine, le sentiment sur l'obligataire a un petit peu changé. On avait des taux qui se détendaient un petit peu partout, aux États-Unis et en Europe. Et puis, la réunion de la Fed a un petit peu retendu les esprits par rapport au risque de hausse de taux. Et en Europe également, on voit qu'aujourd'hui, on a les marchés considèrent qu'il y a 60% de chance pour qu'on ait une deuxième hausse de taux de la Banque Centrale Européenne en septembre. Et ce sentiment, depuis 48 heures, voilà, de redressement des taux en Europe, eh bien, ça empêche le CAC d'aller chercher ses records, ça empêche aussi le DAX de chercher ses records. Donc, je dirais qu'on est retenu par l'obligataire, voilà.
Merci Alexandre Baradez pour IG de vous être rendu disponible ce vendredi en fin de journée. Le CAC donc à moins 0,5 ce soir, mais c'est une nouvelle semaine de hausse, la cinquième d'affilée pour notre indice. On en parle tout de suite.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes sans veste aujourd'hui, tiens.
Mais oui, je respecte le dress code du chef de l'émission.
Mais l'hiver, je ne vous vois pas sans veste. Hein. Là, il fait chaud, vous êtes venu sans veste. Voilà. L'hiver, je suis tout seul sans veste. En revanche, Julien, alors là, quel que soit le temps, le climat, qu'il fasse 35, 40 ou moins 12, il a toujours la veste, il est toujours super classe. Julien Marion avec nous, bfmbourse.com.
Bonsoir. Bonsoir Guillaume et bonsoir Thierry. Enfin bonjour, on est en été.
Il faut dire que c'est plus simple, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas eu trop chaud. Il y a la clim, donc on peut porter la veste dans les locaux, effectivement. Par contre, Thierry, il a pris le métro et là, ça chauffait dur. Bon, on est ravis de vous accompagner, de vous retrouver surtout, l'un et l'autre. Ce soir, une valeur se distingue à la baisse à l'échelle européenne, ASML. On démarre par ASML, on y va, puisque d'après les agences américaines, je ne sais plus, c'est Bloomberg, c'est ça ? Je crois que c'est Bloomberg, ouais. Ça. Bloomberg, d'après Bloomberg, Washington suspecte ASML d'avoir livré à la Chine certaines de ses machines, en violant donc les restrictions américaines à l'export vers la Chine. ASML a perdu ce soir 1%, c'est pas trop grave, mais ce matin on était en baisse un peu plus marquée. Si cela s'avérait, alors ASML dément, mais si ça s'avérait vrai, est-ce que ce serait un tournant, un gros risque pour ASML ? Thierry ?
Ah, c'est vrai que les États-Unis voient d'un mauvais œil que les machines les plus novatrices d'ASML puissent partir en Chine. ASML, c'est des machines et des systèmes pour imprimer les circuits électroniques, et c'est un peu à l'IA ce qu'étaient les pelles et les pioches au moment de la ruée vers l'or. Donc c'est un outil stratégique, c'est vraiment, il y a un goulot d'étranglement sur tous ces matériels là et voilà, les États-Unis veulent garder la main sur ça, garder leur avance en matière d'IA, si tant est qu'ils aient encore de l'avance sur les Chinois, parce que les Chinois sont quand même bien avancés aussi. Donc bah voilà, il y a une petite guéguerre économique qui est pas nouvelle. Moins 1%, c'est vraiment rien du tout. Le titre, il fait x2 depuis le début de l'année. Et puis voilà, il y a quelques petites prises de profit qui sont plus techniques que fondamentales.
Vous avez envie de renforcer ASML ou ça fait partie des valeurs qui ont suffisamment progressé ?
Alors non, ouais, ça fait plutôt partie des valeurs qui ont suffisamment progressé. On était bien chargé en semi-conducteurs depuis le début de l'année. Mais quand vous voyez des STM qui font x3, des ASML, des Infineon qui font x2 depuis le début de l'année, on ne pensait pas, même dans nos rêves les plus forts, que ces titres-là, on verrait ces cours-là aussi vite sur ces titres-là. Donc on en a profité depuis une dizaine de jours pour alléger.
Oui, Julien, ASML, moins 1 ce soir, plutôt allégé, hein, Thierry, avec des arguments qu'il vient de livrer il y a un instant. Vous y croyez davantage? Vous pensez qu'il y a encore énormément de potentiel sur
notre ASML? Énormément de potentiel, je ne saurais vous le dire, parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir, en fait, dans le momentum que connaissent les semi-conducteurs, jusqu'où ça peut aller. Donc en fait, on n'a pas trop le choix, nous, les journalistes, qui ne sommes d'ailleurs pas des analystes, que de regarder les fondamentaux. C'est en fait notre rôle. Hein. On peut difficilement faire autre chose. Ouais. Sur les fondamentaux, en fait, cette menace américaine, pour moi, c'est l'agitation un petit peu américaine. J'ai peur que ce soit juste de l'agitation. Et d'ailleurs, je pense que le marché a eu la bonne réaction en sanctionnant très légèrement, rien, si vous voulez. Le vrai sujet pour ASML, ça reste, en fait, la montée en puissance de leurs machines les plus avancées de photolithographie, hein, les EUV. Et là-dessus, il y a eu des inquiétudes assez importantes du marché, encore une fois. Les derniers signaux qu'ils ont envoyés, en fait, étaient assez rassurants. C'est ce qui, encore une fois, à ASML, on peut faire l'analogie avec Airbus. C'est la production et la montée en cadence de l'offre qui est importante. Car la demande, elle est là, elle le restera, elle est très forte. Et là-dessus, selon les analystes, les derniers signaux sont positifs. Donc on peut penser qu'ASML a suffisamment de potentiel.
Une autre valeur à suivre. Elle est suspendue de cotation depuis hier. On va parler d'une petite valeur, c'est vrai, mais que les particuliers adorent suivre parce qu'elle a cartonné depuis le début de l'année. On n'a pas arrêté de dire que c'était quand même spéculatif, même si on est connecté à l'IA, à la tech, tout ça. Mais voilà, c'est allé très vite. Et là, CRSI est suspendue de cotation depuis hier. Après les accusations de Grizzly Research sur des comptes falsifiés, en fait, le chiffre d'affaires, quasiment tout le chiffre d'affaires de CRSI serait falsifié d'après Grizzly Research. CRSI a dit qu'il démente et ils apporteront les arguments documentés prochainement. Pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus. Hein. Toujours pas d'argumentaire de CRSI qui a été publié, en tout cas avant la clôture, Julien.
Alors, il y aura un webinaire qui sera fait à 18h, si vous voulez, dans lequel ils devraient en fait développer et répondre point par point. Ils disent qu'une partie des affirmations, mais qui, à mon avis, relativement faible, du vendeur découvert, Grizzly Research, est vraie. Parce que ce sont des informations publiques, mais ce sont les déductions, les interprétations qui sont totalement erronées selon eux. Mmh. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a la majorité du chiffre d'affaires qui dépend d'un contrat avec une personne non identifiée qui serait, en fait, totalement fictive.
Oui, et donc, forcément,
exactement,
ça pose question.
Donc, grosse controverse, mais alors l'AMF nous a appris que Grizzly Research avait déjà coupé la moitié de sa position vendeuse hier pendant le quart d'heure ou les 20 minutes pendant lesquelles ça a coté. Donc c'est sûr que le cours avait baissé de 40%, je crois, donc ils sont passés un peu à la caisse, hein, mais est-ce qu'ils sont aussi convaincus que ça de leurs arguments? En tout cas, ils ont déjà coupé la moitié de leur position.
Ouais, juste un
chaud,
point.
C'est chaud quand des vendeurs à découvert comme ça viennent massacrer une valeur, mais avec parfois des arguments, c'est ça le problème. On sait jamais avant ce qui est vrai, ce qui est faux, quoi.
Juste un point, c'est que les analystes vous disent, en fait, qu'ils appuient là où ça fait mal, hein, et que le manque de, que le manque de communication sur ce contrat, en fait, ils en jouent et c'est là où ça fait mal. Juste. Griezer, dans le contexte, en fait, ils s'en étaient pris à accord il n'y a pas longtemps en ayant fait une enquête un peu étrange qui avait lieu dans des hôtels. Cette enquête, elle posait vraiment question à ce moment-là. Et la méthodologie de Griezer, c'était vraiment étrange. Ils avaient mené de lourdes accusations très graves contre Accor.
Oui.
La société avait répondu lors de l'AG. Ils avaient vraiment pas mal démenti. Donc, c'est très difficile, hein, de savoir s'ils ont tort ou ils ont raison parce qu'ils ont un track record qui est, Thierry, Griezer, je ne sais pas si je me trompe, mais un peu mitigé.
Oui. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, sur le dossier, en se rachetant à moins 40%, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ils en ont déjà bien profité. Et donc, voilà, ça peut être malheureux pour la société.
18h, webinaire donc, de la direction de CRSI. Voilà, à suivre. Mais on voit que c'est malheureux, hein, parce que d'autres valeurs sont un peu emportées, dans une moindre mesure. Mais on a Calré ce soir, par exemple, qui a perdu 5% dans cette thématique des small caps, qui avait beaucoup progressé autour de la thématique IA et tech. Allez, d'autres valeurs qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Tiens, il y a Carrefour, JP Morgan, qui a publié une note négative, très inquiète, en tout cas, sur l'avenir de Carrefour. L'avenir, non, mais les semestriels à l'avenir de Carrefour. Le titre hier a beaucoup reculé. Est-ce que vous-même, ça vous amène à réfléchir? Le titre, il cartonne depuis maintenant plusieurs mois. C'est une des surprises du marché parisien. Est-ce que vous pensez que cette dynamique de hausse-là, elle est brisée par la note de JP Morgan?
C'est sûr que ça l'a cassé au moins pour jusqu'à la publication des semestriels courant juillet, parce que JP Morgan a clairement annoncé que Carrefour ne pourrait pas s'exonérer de faire un profit warning. Le cours... Carrefour devait être à plus 18 ou plus 20 depuis le début de l'année. Elle a rebaissé d'une douzaine de pourcents depuis ses plus hauts. C'est un titre qui se paye 8 fois les profits, qui donne 7% de rendement sur ces niveaux-là. On est, tout peut arriver. C'est pas très cher. Tout va dépendre de la dynamique et des parts de marché. L'intégration de Cora, comment ça se passe? Est-ce que ça continue à être compliqué au Brésil ou pas? En tout cas, en Espagne, tout va bien. JP Morgan aura tort ou raison. Ils ont un objectif de cours en dessous de 10€ maintenant. Hein, donc, ça vaut quand même 15,50. Oui. Donc, ils sont très, très pessimistes sur la valeur. On ne partage pas ce pessimisme.
D'accord, Julien.
Ce qu'il faut dire, c'est que JP Morgan, l'année dernière, a fait exactement la même chose avant les semestriels. Ils avaient placé en fait, le groupe sur ce qu'ils appellent négatif Catalyst Watch, en fait, surveillance négative. C'est-à-dire qu'ils disent qu'un événement va faire mal. Et c'était la même chose. Ils disaient les semestriels vont faire mal. Et Carrefour s'était pris 8% à cause de ça, ou 7%, je crois. Sauf que lors des semestriels, la catastrophe, elle n'est pas arrivée. Le titre avait repris 5%, là vous me direz, du coup, ils n'ont pas gagné. Mais ce n'était pas une catastrophe ambiante. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Maintenant, leur argumentaire, on peut y être plus ou moins sensible. Hein, je veux dire, eux, ils voient vraiment un résultat opérationnel courant 12% inférieur aux attentes.
C'est beaucoup, oui.
Pardon ?
C'est beaucoup, enfin c'est peu. Enfin,
c'est beaucoup, mais...
Ils attendent trop peu, oui.
Mais est-ce qu'ils ont raison ou ont tort ? Ils cherchent à appuyer leur thèse négative. C'est pas toujours facile.
Le CAC ce soir, on vous le rappelle, perd 0,5%. Sur la semaine, il a gagné plus d'1%. Cinquième semaine de hausse d'affilée pour notre indice CAC 40. Attention quand même au cours du pétrole qui repart à la hausse parce qu'on se demande de plus en plus si le mémorandum de paix qui a été signé entre Américains et Iraniens sera vraiment appliqué là parce qu'il y a quand même la poursuite du conflit au Liban. Or, la fin du conflit en Liban est une des conditions vraiment exigées et importantes de Téhéran pour respecter l'accord qui a été signé avec Washington. Et, sauf qu'Israël attaque toujours le Liban. Donc c'est un souci sans doute pour l'Iran. Et on continue de se poser des questions sur effectivement la véritable mise en œuvre de l'accord signé avant-hier entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis. Le Brent remonte, ouais, $80.50 ce soir et le Total Energy en profite ce soir. Le titre Total Energy gagne un peu plus d'1% à la bourse de Paris avec Sanofi aussi qui progresse. On a une question d'auditeur sur Sanofi, Maxime sur le Félix BFM Bourse. Le marché semble croire qu'après le Dupixent, Sanofi n'aura plus de blockbuster. Qu'en pensez-vous et que faut-il faire du titre Sanofi, Thierry?
Il n'a pas tout à fait tort. En tout cas, le marché pense comme lui. Le Dupixent, c'est près de 40% des ventes de Sanofi. Et on attend ce qu'ils appellent une falaise des ventes en 2031 à partir du moment où le brevet va tomber dans le public. Alors, ils ont quand même pas mal de choses pour se défendre sur ça, hein, Sanofi, déjà, pour défendre leur brevet, parce que ils peuvent changer les indications, ils peuvent changer les dosages, ils peuvent changer des choses qui vont permettre de repousser un petit peu l'échéance, parce que les brevets s'éteignent entre 2031 et 2045, suivant les indications. Donc, nous, on n'est pas si inquiets sur ça. Sanofi aussi, c'est 80 projets de nouveaux médicaments dans les pipelines, dont 34 sont en phase 3. Alors même s'il y a eu 2-3 accros ces derniers mois, on estime qu'il y a quand même de bonnes possibilités pour que d'autres médicaments sortent. Il y a eu un changement de président. Sur l'historique de rachats de sociétés, la vingtaine qui s'est passée sur ces dernières années, il n'y en a que 2 ou 3 qui se sont mal passées. Donc les acquisitions, ils savent faire. C'est une vraie biopharma qui se paye avec une décote de 30% sur ses pairs européens, à 9 fois les profits et un rendement de 6-7%.
Vous aimez bien.
On est plutôt acheteur sur ces cours-là.
Allez, d'autres questions d'auditeurs en rafale. Il nous reste à peine une minute. On va essayer quand même. Mea culpa. Non, mea culpa, c'est l'auditeur qui nous a écrit. C'est son pseudo sur le Félix BFM Bourse. Il nous a écrit mea culpa et il nous demande ce que vous pensez d'Arverne Group pour miser sur la souveraineté française. Arverne Group. Bon.
C'est des projets de géothermie et d'exploitation de lithium dans le bassin rhénan.
Ah. Intéressant.
Pas de PI, c'est-à-dire pas de PER, pas de profit. Souvent, c'est pour des dossiers pour le PI, justement, le private equity. On trouve que ça n'a peut-être pas trop sa place en bourse. Maintenant, voilà, un petit achat spéculatif dans un PEA, PME, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de risques d'exécution encore.
Alexandre nous écrit, que se passe-t-il sur Vallourec? Le titre perd 8% sur une semaine. Vallourec.
Moi, ça, je pense que ça s'explique par deux choses. Le repli du prix du brut. Et puis, ArcelorMittal, qui était actionnaire au-dessus de 25%, dont on pensait qu'il pourrait peut-être faire une offre sur le global de la société, et puis qui a plutôt revendu des titres puisqu'ils sont repassés en dessous de 17% de participation. Donc je pense que les deux effets combinés, puis un peu de repli technique sur un titre qui avait beaucoup monté, plus 60% depuis le début de l'année, ça explique ce repli, mais voilà, pas d'inquiétude particulière sur ces cours-là.
Et comme cet auditeur Alexandre sur Vallourec, comme Mea Culpa qui nous a écrit sur Arverne Group, ou Maxime sur Sanofi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Chacune d'entre elles compte sur notre Félix BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. Merci beaucoup. Thierry Gauthier, GSD Gestion. Salut Thierry, bon retour. Merci à Julien Marion.
Merci à vous.
BFMBourse.com, plein d'articles encore sur notre site à consulter. Et de nouveaux articles à venir ce week-end aussi, parce que vous bossez aussi le week-end, figurez-vous.
Oui, on travaille le week-end, on est là demain, samedi à 6h.
Ouais. Allez, courage Julien. Dans un instant, les experts sans frontières, c'est avec Mathieu Jolivet. Le CAC ce soir perd 0,5% et le débrief de la séance avec Antoine à suivre également. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.